instant. Mais d'abord, ce soir, vous êtes de retour à la télé. Ça y est, ouais. Ce sera à 22h35, Changeons le monde. On verra quoi ce soir?
On verra une belle rencontre avec Guillaume. Guillaume vous détend, l'humoriste, qui est venu me trouver avec un sujet qui lui tenait à cœur, qui est la pollution engendrée par l'industrie textile. Et c'est vrai qu'avec, depuis ces dernières années, avec toutes ces marques de fast fashion qui viennent de Chine, des vêtements à 5 €, les gens entassent une quantité impressionnante de vêtements dans leur placard. Et le problème, c'est que ces vêtements, ils sont de tellement mauvaise qualité qu'on ne peut pas les recycler, qu'on les porte 3 fois, puis on les jette à la poubelle. Et tout ça, ça finit sur les côtes du Ghana, par exemple. Ça s'empile, on ne sait plus quoi en faire. Et ce qu'on a voulu montrer dans cette émission, qui est vraiment orientée solution, on n'est pas là, on est là pour faire un constat, bien sûr. On n'est pas là pour culpabiliser les gens. On essaie de les emmener avec le sourire. C'est ce qu'on a appelé un divertissement. Rencontrer des gens qui apportent déjà des solutions. Et en Belgique, il y a plein de gens qui apportent de chouettes solutions pour, voilà, essayer d'éviter ce délire autour de... Et on en parle, un Black Friday, c'est intéressant.
Ouais. C'est ce soir à 22h35 sur la Une. C'est votre retour à la télé depuis des années. Vous avez été absent pendant pas mal de temps. Ouais. Ça vous avait manqué quand vous êtes senti, quand la caméra s'est allumée pour la première fois?
Non, ça ne m'a pas manqué. En fait, je reviens pour d'autres raisons. Avant, je faisais de la télé parce que j'avais un tel besoin d'applaudissements. J'avais un tel besoin d'être aimé. Aujourd'hui, je reviens avec une émission qui a du sens, qui apporte un message, qui aide à faire évoluer les choses. Et ça, c'est le fruit de tout ce parcours, ce chemin que je raconte dans ce livre, L'éveil. C'est un vrai chemin d'éveil de conscience, un vrai chemin de retour à soi.
Dans L'éveil, effectivement, vous confiez ouais. Vraiment de manière très intime. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, quand vous êtes au sommet de votre carrière, qu'on voit partout, qu'on vous entend tout le temps, est-ce que vous explosez en plein vol?
Un peu, oui. Et parce qu'à un moment, je me rends compte que voilà, j'avais toujours rêvé de ça. Et à un moment, je me rends compte que j'y suis arrivé, mais que je suis pas plus heureux. Et le détonateur, ça a été la mort de ma petite sœur, Zoé, qui m'accompagne tout au long de ce chemin. Et là, tout d'un coup, tout s'écroule. Tout s'écroule dans ma vie et je trouve qu'il n'y a plus aucun sens. Et je ne suis plus du tout aligné et je décide de partir. D'abord pour une année sabbatique qui va durer 4 ans. Je pars en Inde, je pars en Espagne et je pars pour un chemin de retour à moi, vraiment de retour à ce qu'il y a vraiment au plus profond de nous, ici à l'intérieur, bien au-delà de ce petit personnage qu'on a dans la tête.
Alors on va parler de ce parcours dans un instant, mais le moment où vous décidez de prendre votre année sabbatique, vous le racontez. Vous êtes chez le patron de la chaîne d'en face. Ouais. Et vous êtes un peu surpris parce qu'au moment où vous lui dites « je vais arrêter », il dit « ok, très bien ». Et on vous sent un peu déstabilisé au moment où il dit « ouais, oui, parfait, on va aller faire les papiers, c'est fait ».
Oui, oui. J'étais assez étonné, mais en fait, par la suite, j'ai compris qu'il vendait la boîte, donc je faisais partie des gros salaires. Donc, il m'a laissé partir.
Mais ça vous a fait mal quand même parce que vous dites qu'à ce moment-là, vous avez un ego qui prend pas mal de place.
Bien sûr, oui. Ben, il faut de l'ego pour faire ce métier. L'ego, on en a toujours. Ce qui est important, c'est un moment, et c'est ça l'éveil de conscience, c'est un moment, prendre de la distance par rapport à cet ego, pouvoir l'observer. Et ça, la méditation, c'est aussi une méthode extraordinaire. C'est tout d'un coup revenir au cœur et ne plus s'identifier à ce personnage qu'on a dans la tête, qui est en fait le fruit uniquement de nos conditionnements, de nos blessures d'enfant, parce qu'en général, ce sont des blessures d'enfant. Et quand on fait la paix avec ses blessures, quand on prend de la hauteur, quand on observe le personnage, on a toujours de l'ego, mais on voit quand il commence à dérailler. Et effectivement, j'avais beaucoup d'ego. Ouais.
À ce moment-là, vous démarrez un parcours, vous transformez, vous changez. Ouais. Et puis, il y a quelque chose que vous évoquez régulièrement dans le livre. C'est une drogue, en fait, qui, à un moment donné, vous aide à faire ce parcours.
Alors, c'est une substance entéogène, des psychédéliques, c'est de l'ayahuasca, qui est utilisée par les chamans en Amazonie depuis des millénaires.
Mais qui est illégal ici, c'est considéré comme
illégal,
drogue en Belgique.
Voilà, et je ne le conseille pas, parce que c'est un voyage, vraiment, d'abord, qui doit se faire très encadré, avec des chamans, des gens qui savent utiliser ce genre de substance, mais c'est une substance qui permet d'aller au plus profond de soi, de dépasser l'inconscient, le subconscient, pour aller vraiment rechercher de vieux traumas et les purger. C'est pas du tout un truc pour rêve parti. C'est vraiment un exercice très compliqué, mais tellement nécessaire, parce que moi, je croise tellement de gens qui portent des blessures d'enfance, mais qui les mettent sous le tapis. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a toujours des conséquences sur qui on est. Des blessures, on en porte. Quand on éclaire ces blessures et qu'on les extrait de soi, quelle libération.
Et c'est ça qui fait que vous comprenez comment vous avez fonctionné pendant des années.
Bien sûr.
Parce que cette drogue, cette substance, ouais, vous fait repenser à un moment horrible quand vous êtes ado.
Oui, un viol. Vous savez, Ce sont des chiffres officiels. Un enfant sur cinq en Europe est abusé. Et la moitié aura une amnésie traumatique. Moi, j'ai remis de la lumière sur cet épisode. Et c'était tellement important parce que ça avait un tel impact sur qui j'étais, un tel manque d'amour que je pouvais avoir de moi, d'où ce besoin d'applaudissements en permanence. Mais ça me tuait à petit feu. Voilà, ici j'explique que c'est avec cette substance, mais ça peut se faire de plein d'autres manières, avec une psychanalyse, avec la méditation. Mais c'est vraiment l'importance d'éclairer ces blessures pour vraiment ne plus devoir les porter, pour guérir cet enfant intérieur.
Mais vous doutez, malgré le fait qu'à un moment donné des flashs vous reviennent.
Bien sûr.
Vous doutez pendant longtemps, vous vous demandez si ce que vous imaginez qui s'est passé, c'est réellement passé.
Et surtout quand j'en parle à mon entourage, ma mère, elle ne me croit pas, parce que c'est ça le problème des victimes, c'est que l'entourage n'a pas envie d'entendre ça, parce que ça remet tout en cause dans l'équilibre, dans les amitiés qu'on peut avoir avec ces personnes-là. Je doute, maintenant je n'ai plus de doute parce que je sais que ce personnage a fait la même chose à d'autres personnes.
Vous évoquez d'ailleurs votre sœur par rapport à ça.
Ouais.
Il y a le moment où vous la retrouvez et vous vous comprenez, vous ne dites pas forcément les choses mais vous vous comprenez.
On se comprend parce que ma petite sœur est décédée d'une rupture d'anévrisme. Et la dernière chose qu'elle me dit avant de tomber dans le coma, c'est... Pardon, je suis un peu ému. On s'est bien retrouvés, nous deux. Et c'est vrai qu'on vient d'une famille très dysfonctionnelle où on s'est un peu perdu pendant des années. Et c'est sur les derniers moments, elle me ressemblait tellement, ma petite sœur. Et voilà, et ce message... Il m'a accompagné et puis elle m'a fait des signes parce que c'est ça aussi l'éveil de conscience. C'est la découverte que quelque chose peut-être nous dépasse, une forme de spiritualité. Et des signes de ma petite sœur, j'en ai eu tout au long de ce chemin et j'en ai encore aujourd'hui. Et c'est important de se reconnecter à ça, à cette part-là.
C'est la phrase la plus importante pour vous, ça, dans votre vie. Vous démarrez avec ça. Pour bien. Toi, Zoé, on s'est bien retrouvés tous les deux.
Parce qu'elle est là, parce qu'elle m'accompagne, parce qu'elle est tout le temps là. Elle a été l'impulsion qui m'a permis ce chemin de me retrouver vraiment, d'être enfin en paix. Et c'est pour ça que ce livre lui est dédié. Oui.
Parmi les éléments de votre histoire que vous racontez, il y a ce voyage en Inde. Vous prenez une bonne claque en Inde.
Alors l'Inde, ça m'a appris plein de choses. Ça apprend d'abord l'humilité, parce que on est juste une petite poussière au milieu de d'un magma humain. Et tout d'un coup, on a peut-être l'impression d'être important ici, alors qu'on est juste connu dans la moitié d'un des tout plus petits pays au monde. Hein. Je veux dire, à un moment, il faut un peu redescendre sur terre. J'ai découvert la spiritualité, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à la mort. J'ai été sur les rives du Gange à Varanasi, à Benares, où on brûle les morts sur le Gange. C'est un choc. Mais en même temps, pour eux, c'est une libération parce que c'est la réincarnation, c'est la fin des réincarnations. Donc c'est aussi cette découverte-là, c'est la découverte de tant de choses, l'Inde, ouais.
Ça a été compliqué d'écrire ce livre parce que, en fait, l'écrire, vous l'avez fait pour vous au départ, mais de le publier, parce que vous vous confiez sur vos sentiments, sur votre sexualité, sur vos troubles, vous racontez tout dans le livre.
Parce qu'il faut être authentique, je pense que vraiment, être soi-même, ne plus dépendre du regard des autres, ça n'a pas été compliqué de l'écrire, ça a été une thérapie pour moi de l'écrire, ça a été plus compliqué de le publier et de voir certaines réactions. Il y a une certaine presse qui a titré des choses qui étaient un peu dures, un peu racoleuses, et alors que ce livre ne parle pas que de ça, loin de là, c'est un retour à soi. Maintenant, j'essaye de me montrer tel que je suis.
Vous êtes guéri ?
On n'est jamais guéri, et le chemin, il est long. Mais c'est ça qui est beau, c'est un long chemin d'apprentissage de soi et d'essayer de devenir chaque jour un petit peu plus une meilleure version de soi-même.
Il y a quelques années, ici, quand vous étiez en pause, quand vous étiez parti en Inde, et juste à votre retour, on recevait votre papa sur le plateau.
Je me souviens, parce qu'on m'en a parlé.
On en a beaucoup parlé à l'époque, ça a fait la une de la presse aussi, mais votre papa ne comprenait pas vraiment votre voyage, votre projet. Avec le livre, il a compris maintenant ?
Il a compris et on en a beaucoup discuté. Il a compris que ce monde va mal et que cette envie de partager la méditation, notamment avec le plus grand nombre, parce que je donne des ateliers de méditation, c'était quelque chose d'utile et qui servait finalement. Parce que moi, ce que j'ai compris à l'issue de ce long voyage, c'est que on court après l'argent, la notoriété, le pouvoir, mais tout ça c'est illusoire. La seule chose qui compte finalement, c'est l'amour. L'amour qu'on peut avoir pour soi, l'amour qu'on peut donner aux autres, l'amour qu'on peut porter à ce qui nous entoure, à tout ce qui porte la vie.
Tous les gens qui sont dans ce milieu ont un problème ?
Non, je pense pas. Chacun a son problème et je souhaite à chacun de pouvoir trouver la clé.
Le livre de Thomas Vanhamme s'appelle L'éveil. On retrouve Thomas ce soir à 22h35 dans sa nouvelle émission Changeons le monde. Merci. Vous restez avec nous, Thomas, pour la chanson de Jean-Luc.
Évidemment.